nous vous remercions d'être venus à cette conférence intéressante sur hommes-femmes uniques en leur genre. Titre un peu énigmatique, mais c'est pour susciter curiosité. Et nous remercions nos deux conférencières de nous éclairer sur ce sujet. Le débat général des journées là, de Bordeaux, c'est les identités, l'identité des hommes et des femmes. Un sujet compliqué, sensible, qui provoque des grands débats. Et d'ailleurs, on voit bien la présentation du sujet est un petit peu... un peu gênée aux entournures, un peu pas totalement claire, mais elle pose le sujet qui est qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle l'identité liée au genre, c'est quoi aujourd'hui les relations, comment les gens se sentent hommes, se sentent femmes, quelle est cette fameuse notion de fluidité entre les sexes, et ce qui serait intéressant là, pendant cette heure que nous allons passer ensemble, c'est d'axer nos échanges sur cette question et pas trop dériver sur des débats un peu rabattus sur le mouvement féministe, le mouvement MeToo, et d'essayer de se centrer sur qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui. Est-ce que ces frontières-là ont évolué ou est-ce que on parle quelquefois, notamment toute une partie de la génération qui vient, qui parle très 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 volontiers de l'effacement des frontières entre les genres. Jusqu'à quel point c'est vrai, jusqu'à quel point on le vit, comment on le vit, etc. Et donc je vais présenter nos deux invités. Rosemarie Lagrave, qui est directrice d'études. À l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, qui très tôt, vous avez été conscient de ces sujets, vous avez animé un master dès 1964, ces sujets étaient moins à la mode sur politique, culture, sexualité. Après, vous êtes intéressé à toutes sortes de sujets, la paysannerie, le communisme, etc. Et l'année dernière, vous avez écrit un livre, Se ressaisir, dont le sous-titre est « Enquête autobiographique d'une transfuge de classe féministe ». Donc, vous allez nous expliquer un petit peu la démarche que vous avez eue en centrant en quelque sorte votre enquête de sociologue et d'universitaire sur vous-même.
Non, pas sur moi.
Il y a déjà une erreur. Moi, je voyais quelque chose entre Annie Ernaux et Sandrine Rousseau, mais pas du tout.
Non
mais c'est pour vous provoquer. Et voilà. Et Mazarine Pinjot, normalienne, agrégée, professeure de philosophie à Paris 8 et écrivaine, qui. Pardon ?
À Sciences Po Bordeaux.
Sur quel. Dans quel. D'accord. Et donc, qui, à travers ses romans, a beaucoup parlé des rapports entre les hommes et les femmes, de ce que c'était aussi, de ce que l'écriture a pu représenter pour elle, vous me corrigez, comme femme, possibilité d'absorber une certaine violence subie, et c'est beaucoup passé, vous l'avez expliqué, par l'écriture. En revanche, sur le débat qui est très médiatisé dans les talk-shows, etc., sur MeToo, féminisme et tout, vous avez pris une position très vigoureuse dans une libre opinion en 2020 au Monde, en stigmatisant le mouvement féministe actuel avec des mots assez violents, comme un mouvement maccartiste, comme un mouvement de bien-pensance, etc. C'était assez musclé. Mais cet article ne doit pas masquer tout le travail intellectuel et d'écrivaine et d'universitaire que vous faites sur ces questions. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de bien centrer notre débat sur ces questions de qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui. Alors, je vous laisse parler peut-être de ce... Alors, je trouve qu'il y a un point commun, mais peut-être je me trouve entre vous, une approche très superficielle qui est celle du journalisme, mais quelquefois on peut avoir une intuition, c'est que votre livre s'appelle « Se ressaisir », Et vous dites non, non à la victimisation, non à la, la, il faut prendre des forces pour aller.
On peut dire ça.
Voilà. Et vous avez pris des positions publiques justement contre une certaine forme de victimisation des femmes aujourd'hui dans le mouvement féministe actuel. Alors, vous allez nous expliquer un peu ces éclairages là. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans votre...
Qu'est-ce que j'ai voulu faire?
Après avoir fait des choses totalement différentes d'abord.
Bah oui.
Donc, pourquoi vous avez voulu choisir d'abord ce sujet?
Oui. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci à cette librairie que je ne connaissais pas, qui est un temple du savoir. Et c'est formidable, quoi. Voilà. On a toute notre vie encore pour avoir des bouquins à lire, et c'est formidable. Pourquoi j'ai fait ce bouquin? Il y a un moment, et je veux dire, je ne parle pas en termes d'identité, moi. L'identité de moi-même, je m'en fiche complètement. Moi-même ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de... C'est à la fois les appartenances et en même temps les positions et les places qu'on occupe dans la société. Et donc, pour savoir quelle est la place que j'occupe dans la société, vous avez rappelé que j'étais directrice d'études à l'École des hautes études, mais comment ça se fait que je suis arrivée là? Et c'est la question que je me suis posée. Et la question que je me suis posée, elle se résume en des termes, ce n'est pas moi qui m'intéresse, mais le parcours que j'ai accompli. Et le parcours que j'ai accompli, il fait exception à la règle de la reproduction des classes sociales en France. Pourquoi? Je fais partie d'une famille de 11 enfants. Ma mère a eu 13 gosses, 2 sont morts en bas âge. Nous vivions dans un petit village de Normandie de 342 habitants. Et bien évidemment, quand on regarde les statistiques de l'époque et quand on regarde les recherches de l'époque, on voyait que plus on habite un milieu rural et plus on fait partie d'une famille nombreuse, et moins on a de chances d'entrer dans des études secondaires et supérieures. Donc cette énigme, j'ai essayé de la résoudre en essayant de faire une enquête, et c'est pour ça que ce n'est pas du tout une recherche d'identité de moi-même. J'ai fait une enquête sur ma propre famille, sur 4 générations. C'est-à-dire, pour essayer de comprendre comment un parcours qui était improbable, d'une classe sociale inclassable, et comment une ascension sociale n'est pas du tout un ascenseur social qui tombe du ciel. Comme je le dis aux journalistes, moi, j'ai jamais pris un ascenseur social, mais j'ai pris l'escalier de service pour montrer que le parcours qui ne va pas de A à Z en ligne droite, mais est fait de haut, de bas, de déclassement, de pas à pas pour arriver là où je suis arrivé, c'est-à-dire professeur des universités. Ce que je montre aussi, c'est que quand on veut, on peut. Il n'y a qu'à traverser la rue et puis vous allez trouver du boulot. Ah ben oui. Eh ben pas du tout. Ce que montre ma trajectoire, hein, c'est pas une identité, c'est ma trajectoire, c'est que justement pour pouvoir vouloir, il faut pouvoir et donc avoir des ressources et surtout avoir des alliés, des collectifs d'ascension. C'est-à-dire toute seule, je n'aurais pas pu y arriver. Et donc, ces alliés et ces collectifs d'attention, c'est d'abord les instituteurs. C'est ensuite des profs au lycée de jeunes filles de Caen, c'était non mixte à l'époque. Ensuite, des profs à la Sorbonne, mais aussi le mouvement féministe, les collectifs du mouvement féministe.
Le MLF.
Le MLF, bien sûr, qui vraiment, et y compris un groupe qui est ignoré dans le MLF, qui s'appelait, qui a été éphémère, le groupe des femmes mariées, éphémère parce qu'on a été démariés 2 ans après. Mais n'empêche que ce groupe a été une réassurance pour essayer de prendre la parole et puis de s'assurer les unes et les autres que effectivement on pouvait aller de l'avant. Et donc vous voyez qu'on est loin d'une identité et que ce que j'ai voulu montrer, c'est que les exceptions qui confirment la règle de la reproduction des classes sociales. Ce ne sont pas des gens exceptionnels. Je n'avais aucun talent. Je n'étais pas mieux que les autres, aucun talent. Mais, par exemple, dans mon village, je me suis aperçu en faisant les archives, parce que faire une enquête, c'est non seulement faire des archives, c'est faire les archives de ma petite école, faire les archives du lycée, faire les archives à l'école des hautes études.
Les bulletins scolaires, tout ça.
Les bulletins scolaires, où au troisième trimestre, il est marqué « doit se ressaisir hein ». Donc j'ai pris ce ressaisir parce que c'était une ironie au sort, mais aussi faire des enquêtes, et j'ai fait une enquête avec mes frères et sœurs, c'est-à-dire que j'ai fait des entretiens avec les membres de ma fratrie et avec mes deux fils, en sorte que j'ai vu que, voilà, quand je dis je n'avais aucun talent, c'est une construction collective. Et j'en veux pour preuve, je vous donne un exemple. Les instituteurs qui étaient des instituteurs que je voyais comme les hussards noirs de la République de Péguy. Et dans un premier temps, je les ai vus comme ça. Et puis petit à petit, en faisant justement un entretien avec la fille d'un des instituteurs, elle me dit « Mais attends, mes parents n'avaient pas du tout de vocation. C'est faute de mieux qu'ils ont fait un stit. » Et c'est ensuite que la vocation est arrivée. Et lorsque j'étais dans le village, je me suis aperçu de quoi. Mon père a été formé au petit et au grand séminaire. Donc il avait un petit capital culturel, si j'ose dire. Arrivé dans un village où personne n'en avait, il était pourtant déclassé, puisque du jour au lendemain, 1942, il a contracté la tuberculose, on l'a licencié. Donc il y a déclassement géographique de Paris en province, déclassement tout court de... Il était courtier d'assurance, il est devenu invalide 100%, comme on disait à l'époque. Et du coup, les instituteurs, mon père exigeait que nous parlions un français sans faute. Et ça, c'est important. Parce que quand je discute avec Annie Ernaux, elle me dit, moi, je parlais normand. Et donc, un français sans faute. Or, les instituteurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Quand je fais les archives du rectorat, je m'aperçois que les directeurs d'académie demandent aux instituts tous les ans d'envoyer des enfants au lycée, et ils étaient notés en fonction d'envoyer des enfants au lycée. Les instituts, quand ils ont vu cette flopée de gosses socialisés, parce que c'était un catholicisme chez moi très rigoureux, socialisés, on est arrivé tout préparé à l'école. Donc, envoyer des élèves au lycée, c'était la convergence entre deux intérêts. L'intérêt des instituts à envoyer des gosses au lycée, et l'intérêt de mes parents à avoir moins de bouches à nourrir, puisque nous avons eu une bourse pour faire nos études. Donc, vous voyez, quand je dis il faut, c'est une construction collective, l'État-providence de l'époque permettait à des gosses comme moi d'avoir des bourses.
Et le fait d'être une fille, qu'est-ce que ça a changé ou pas les choses?
Le fait d'être une fille, dans ma socialisation primaire, ça a changé que si mon père avait eu 9 garçons au lieu de 9 filles, ça serait passé autrement. Parce qu'effectivement, lorsqu'il disait « je ne veux pas voir une tête qui dépasse, je ne veux pas voir quelqu'un qui me pose une question parce que c'est de l'orgueil », donc il nous a inculqué avec la religion catholique la soumission, la culpabilité. Avec des garçons, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu une révolte.
Il y avait 9 filles sur 11.
Ben oui, il y avait 9 filles sur 11. Ensuite, au lycée non mixte de Caen, c'était la même chose. Donc le fait d'être une fille... Je me souviens, en troisième, ça a été quelque chose. C'était les premiers tests d'orientation. Et à ce moment-là, fin de troisième, la psychologue me dit « Ah, vous avez des dons artistiques. » Ben, tu parles, j'en ai jamais entendu parler, des dons artistiques. « Vous avez des dons artistiques, et donc ça serait bien que vous soyez coiffeuse. » On aurait dit ça à un homme. Non. Et voilà. Le fait d'être une fille, c'est aussi le plafond de verre quand vous êtes...
Mais en troisième, vous saviez qu'on vous disait ça parce que vous étiez une fille?
Mais non, je l'ai pris comme je viens d'une classe sociale minable, et c'est un mépris de classe. Je l'ai pris comme un mépris de classe. Ça, c'est évident. Et donc, je ne le voyais pas comme... parce que je n'avais aucune formation pour... J'étais dans un milieu féminin. Et donc, je n'avais pas conscience que c'était au titre de mon genre qu'on me disait ça. Mais... venant d'une classe sociale basse, démunie, eh bien voilà, je ne pouvais faire que coiffeuse. Et, j'ai rien contre les coiffeuses.
La conscience du genre.
La conscience du genre, elle m'est venue déjà en étant étudiante en 68. Pour ceux et celles qui ont connu 68, nos copains militants prenaient la parole, ils savaient prendre la parole. Moi, ça fait pas longtemps que j'arrive à prendre le micro comme ça. Ils prenaient la parole, puis nous, on faisait les tracts, on distribuait les tracts, et voilà. Il y avait une division sexuée du travail militant qui, quand même, à un moment donné, nous a... on a été confrontés à pourquoi pas nous, quoi. Est-ce qu'on est si bête que ça qu'on peut pas prendre la parole politiquement? Donc, on était, c'est vrai, moins formés qu'eux. Hein. Mais, néanmoins, petit à petit, et c'est là qu'est né le MLF, les premières réunions du MLF aux Beaux-Arts et ailleurs, pour dire... ça suffit. Hein, on n'est pas là seulement pour éditer des tracts, faire la Ronéo, et voilà. Mais on pense aussi. Et c'est là que j'ai pris conscience que... Et puis, je l'ai pris conscience petit à petit, comme dit Annie Ernaux dans La Femme gelée, dans des dominations de proximité que sont quelquefois la conjugalité, pas toujours, et qui m'a fait prendre conscience que... être une femme, et je pense que je ne suis devenue femme qu'au MLF. Avant, j'avais une identité sexuée, mais je me suis revendiquée comme femme à partir du moment où j'ai milité.
Oui, mais vous dites vous revendiquez comme femme, et vous dites je refuse une identité de femme.
Je refuse que cette identité soit manipulée pour qu'elle soit inégalitaire. Par rapport à voilà, c'est ça. C'est-à-dire que toute ma vie et ma vieillesse aussi, je militerai pour une égalité entre les genres, c'est évident, et qu'il y ait moins de pouvoir, puisque le genre, c'est un concept qui suppose un pouvoir. Hein, ce n'est pas une identité sexuée, c'est une construction sociale, des relations sociales.
Et dans la vie, alors, amoureuse, sexuelle, affective, vous vous sentez... une femme,
mais je me sens rien du tout. Je me sens rien du tout. Je fais avec les moyens que j'ai pour rencontrer l'autre, tous les autres. Parce que une identité, si elle existe, elle n'existe jamais en dehors de cette rencontre avec l'autre, l'hospitalité de l'autre, y compris dans les ces difficultés, c'est ce qui me construit en tant que femme, c'est la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, d'autres femmes, d'autres hommes, les émigrés, les exilés, les prisonniers, tous ceux qui sont dans le bas-côté font m'ont construite. Comme femme, j'en sais rien, mais comme citoyenne. Et comme militante, oui.
Et comment vous réagissez justement à toute cette partie de nouvelle génération qui revendique cette fluidité entre les gens et qui ne veut pas se définir comme femme ou homme?
Mais pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai, comme vous avez rappelé que j'ai créé ce master et puis maintenant ce doctorat genre, politique, sexualité. Et je suis, d'une certaine manière, mes étudiants et mes étudiantes m'ont enseigné. Je suis d'une génération où le queer, tous les apports de nos collègues anglo-saxons, je ne les connaissais pas, c'est elles qui m'ont fait lire. Et maintenant, je vois qu'il y a des thèses, qu'il y a des prises de parole, de ce qu'on appelle les trans, moi je me dis transfuge de classe, c'est-à-dire la capacité de passer des frontières de classe, et Dieu sait si c'est dur, les barrières entre les classes sociales sont dures, sont très dures. Mais les barrières, les transgenres, sont aussi très dures. C'est-à-dire qu'effectivement, les contraintes de la société vous imposent une place et une seule, et qu'elle soit univoque. Or, si vous voulez, il y a une fluidité, il y a des passages possibles, il y a des mobilités, il y a des interstices, il y a des recompositions qui font que il y a des transgenres qui étaient soit femmes et qui deviennent des hommes, ou des hommes qui deviennent des femmes. Ça suppose des réassignations effectuées et pas forcément chirurgicales, mais ça suppose aussi une, comment dire, une réinvention de socialisation qui sont à la fois difficiles et en même temps enthousiasmantes quand on parle avec eux et avec elles. Hein. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, tout à fait. Bon, on va donner la parole à Mazarine Pinjot sur ces sujets.
Oh là, ben, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas par quoi commencer. Peut-être sur la question des identités, puisque c'est l'intitulé de la table ronde et plus globalement des tribunes de la presse. Moi, je suis tout à fait, je partage la même position. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'une identité. Je trouve que ce n'est pas très intéressant de discuter en termes identitaires. On sait bien que l'identitarisme pointe du doigt très clairement une manière de distinguer nous et les autres, enfin, en tout cas de réinscrire de la division. Et que l'identité, ça, voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, ni dans la nature, ni dans la culture. À la limite des appartenances, en effet, mais des appartenances, elles sont toujours multiples. Elles sont peut-être celles qui nous ont construites, et puis elles sont ensuite celles qu'on choisit en fonction des choix qu'on fait dans la vie. Etc. Donc la question identitaire, elle est toujours réactionnaire, en quelque sorte. Enfin, elle fait toujours signe vers une forme de réaction. Et donc, on est toujours un peu piégé de devoir débattre à l'intérieur de ce paradigme identitaire. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il est récupéré aussi par des luttes de reconnaissance, ce qu'on peut tout à fait comprendre, évidemment, des luttes mémorielles, des luttes de reconnaissance qui s'énoncent sous le schéma identitaire. Moi, j'y vois une stratégie de reconnaissance, mais qui a vocation à être dépassée. C'est-à-dire que si on s'en tient juste à une identité, encore une fois, il y a toujours le risque de l'exclusion, du rejet, etc. Donc, bon, voilà, pour ce qui relève de l'identité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Alors, pour revenir peut-être sur le parcours, puisque c'est ça qui finalement éclaire aussi les positions, et notamment les positions de genre, puisque c'est notre sous-titre. Même si on a un parcours absolument opposé, j'y vois quelque chose quand même qui se... Enfin, un point commun qui est assez intéressant et étrange, parce que vraiment, on ne vient pas du tout ni du même milieu, on n'a pas eu le même parcours, etc. Mais je vous ai lu avec beaucoup d'intérêt. Ce qui, à mon avis, nous rassemble et ce qui fait qu'on a nécessairement, à partir de ce point de départ, une position un peu particulière relativement à l'identité, aux identités et également au genre, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est la question de l'illégitimité. L'illégitimité, pour ma part, elle n'est pas de l'ordre social, quoique l'illégitimité est toujours sociale. Mais elle s'inscrit d'abord dans une illégitimité de statut, enfin une illégitimité quasiment ontologique, puisque je commence ma vie en n'étant pas reconnue, enfin en tout cas en ne pouvant pas dire qui je suis. Et je pense que ce point de départ, même si après il peut y avoir plein d'explications, c'est pas que pour des mauvaises raisons, enfin j'en fais pas un lieu de condamnation ou quoi que ce soit, mais c'est le point de départ. À partir de l'illégitimité, je pense que la question de l'identité, si on veut encore une fois reprendre ce mot qui est un peu compliqué à manier, elle commence par un manque, quoi. Elle commence par quelque chose qui n'est pas là, et elle commence justement par ça n'existe pas. Et comment on fait dès lors pour devenir légitime à l'intérieur d'une société qui n'a pas du tout décidé de vous reconnaître parce qu'on vous reconnaît soit précisément parce que vous appartenez à telle ou telle société, soit parce que vous appartenez à telle famille, soit parce que votre nom est identifiable, soit, enfin, voilà, justement par des identifications. Et moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une grande partie de ma vie, de l'enfance en l'occurrence, qui est le lieu de la construction, en étant désidentifiée. Et je n'ai pas pour autant cherché une identification. Enfin, je n'ai pas cherché à sortir de cet état en trouvant des identités de substitution. J'en ai plutôt fait une, une philosophie de vie en disant ben, il n'y a pas d'identité. Enfin, on peut évidemment s'aider, se construire, choisir une voie dans la vie, écrire. Alors, l'écriture participe justement d'une désidentification aussi, mais ça, on peut en parler. On peut faire des choix, on peut faire des choix de professionnels, amoureux, etc. Donc on peut construire une identité. Et je pense que là, si on utilise le terme d'identité en termes de construction narrative, alors peut-être que ça peut vouloir dire quelque chose, parce qu'il y a la prise en compte de la temporalité, des rencontres. Enfin voilà, c'est une identité ouverte, on va dire. Alors là, ça veut dire quelque chose. Mais sinon, l'identité étant en général ce que renvoient les autres de vous, en fonction effectivement d'un certain nombre de coordonnées, alors effectivement, l'identité n'existe pas. Et donc, moi, je ne me suis jamais sentie... de la même manière, je me suis jamais sentie... J'ai découvert que j'étais une femme très tard. Un peu comme les métis, j'ai des amis métis qui, en arrivant en Afrique, ont découvert qu'ils étaient noirs. Alors qu'en France, qu'ils étaient blancs, pardon, alors qu'en France, ils pensaient qu'ils étaient noirs. Enfin, c'est le regard des autres qui vous dit que tout à coup, en fait, il y a quelque chose qu'on appelle identité, mais que vous n'éprouvez absolument pas à l'intérieur de vous, parce que c'est toujours très réducteur, une identité. On est pluriel, on est multiple. Bon. Et donc, c'est vrai que moi, je pense avoir découvert que j'étais une femme, enfin, si c'est un genre, voilà, enfin, le genre féminin, très tard, d'abord parce que je n'ai pas du tout été élevée de manière sexuée, entre guillemets. J'étais ni un garçon ni une fille. Ensuite, parce que je pense, en revanche, pour moi, que d'avoir été une fille m'a plutôt aidée, hein, même si je ne m'éprouvais pas nécessairement comme fille. J'étais d'ailleurs très garçon manqué quand j'étais enfant. Enfin, j'étais pas... Mais en revanche, je pense que ça m'a... Bon... On peut en parler, mais je pense que ça m'a aidé en fait d'être une femme plutôt qu'un garçon, en tout cas dans ma filiation. Et par ailleurs, du fait de ces premières expériences de vie, moi, je me suis toujours méfiée, et c'est une pathologie plus que quelque chose que je revendiquerais. Enfin, j'en fais pas une philosophie. Je me suis toujours méfiée des appartenances, des collectifs et des groupes, même si je pense que pour faire de la politique, nécessairement, on doit appartenir à des collectifs et on doit créer, même de manière artificielle, des identités, au moins temporairement. Parce que quand on a un combat, ben, il faut, à un moment donné, un peu passer sous silence certaines ambivalences, certaines complexités. Il faut que le message soit lisible, il faut qu'il puisse unifier le plus grand monde. Donc nécessairement, quand on est dans un combat politique, dans une stratégie politique, on doit travailler sur un message qui éventuellement peut intégrer voilà, quelque chose qui serait de l'ordre d'une identité collective. Pour moi, ça ne pose pas de problème à partir du moment où ça relève d'une stratégie politique. En revanche, moi, je n'ai jamais réussi à m'identifier à quoi que ce soit, précisément parce que parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir un pied, être dedans, dehors. Quoi. Mais dans toutes mes expériences de vie, dans mon rapport à mon travail, je suis toujours dedans, dehors. C'est toujours très difficile de se sentir appartenir quand, dès le départ, de manière originelle, vous êtes illégitime, en quelque sorte.
Mais dans tous ces débats sur le genre, il y a une place quand même très importante faite aux orientations sexuelles, notamment dans ces générations qui viennent, et avec une volonté d'avoir des orientations sexuelles beaucoup plus ouvertes, fluides, le fameux terme qui est utilisé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et comment vous réagissez à ça? Parce que ça, c'est la bisexualité de très nombreux jeunes aujourd'hui. C'était pas le cas.
Freud l'avait déjà montré.
C'est intéressant parce que.
Pour vous dire ma position, c'est que je m'en fiche. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, je sais pas comment dire.
Non, mais c'est pas une question de jugement.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on a déplacé le débat sur quelque chose où moi, je m'inscris plutôt dans un combat d'égalité des droits qui nécessite évidemment de faire changer les mentalités. Il ne s'agit pas juste de changer le droit pour que les gens changent et donc tout le travail sur les mentalités, d'où l'importance par exemple du mouvement MeToo qui a participé de cette transformation des mentalités, des rapports de force, parce que c'est aussi, ça traverse aussi les normes sociales. C'est pas qu'une question de droit. Néanmoins, moi, dans mon idéal, je crois beaucoup à l'état de droit, je crois beaucoup à une distinction entre le réel et l'idéal. l'idéal serait d'arriver à une égalité telle que la question des différences, des choix, etc., ne se pose pas, enfin, ne se pose pas comme une problématique sociale. Pour moi, l'égalité de droit, égalité réelle autant que formelle, et c'est là où tout le combat politique doit s'inscrire, doit parvenir à un état où, justement, toutes ces questions, d'une certaine manière, n'auront plus à se poser. Et donc, revendiquer, en quelque sorte, et c'est aussi la contradiction, un petit peu, je trouve, des mouvements actuels, revendiquer, justement, tel choix de genre, ou telle appartenance genrée, ou telle fluidité, je trouve que c'est formidable si le combat, il est là pour faire bouger les mentalités, mais sinon, en soi, c'est comme de revendiquer, d'avoir les cheveux bruns. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est... À part faire bouger les lignes de la tolérance, je n'y vois pas un combat politique. Voilà. Mais,
alors, oui, mais là, le problème de la tolérance, par rapport...
Oui, mais si vous voulez... Alors, il y a aussi quelque chose... Il y a une autre chose... Bien sûr que ça se pose, mais à condition de ne pas en oublier le combat pour l'égalité des droits. Et ce combat pour l'égalité des droits, il passe un tout petit peu au second rang. Et pour moi, c'est ça, le combat politique. La politique, c'est à cet endroit-là qu'elle doit agir. La question des mœurs, elle est fondamentale. Il y a évidemment un combat politique à mener aussi là-dedans, mais elle est plus compliquée parce qu'elle devient normative, elle devient morale. Il y a des confusions autour de tout ça. Et une autre petite chose que je veux dire sur la question du genre, c'est que la notion un peu de la fluidité du genre, que je trouve hyper intéressante par ailleurs. Hein, moi, il y a des textes de Butler que j'adore travailler. Je trouve qu'elle minimise. Alors, j'ai deux critiques à poser sur cette question de la fluidité des genres. D'abord, je trouve qu'elle est malheureusement assez complice avec une vision néolibérale de l'individu souverain. Et je choisis mon genre et je choisis. Ben non, je pense que malheureusement, il y a une violence du corps. Je pense que il y a une douleur qui est un petit peu mise entre parenthèses. Je ne pense pas qu'il y ait un choix de la performance comme ça en disant ben, aujourd'hui, j'ai envie d'être une femme, aujourd'hui, j'ai envie d'être un homme. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui relève du choix. Je pense que c'est quelque chose qui relève de beaucoup plus pulsionnel, de beaucoup plus inconscient. Et que c'est là que le nœud se joue. C'est que, justement, il y a quelque chose qu'on ne choisit pas forcément et que c'est douloureux. Et que ce qui est douloureux, c'est justement le fait que ça ne soit pas nécessairement accepté, etc. Et c'est là où intervient le combat. Mais je trouve qu'on manie ça comme si c'était un petit peu « aujourd'hui, je consomme ci, aujourd'hui, je consomme ça ». Et je trouve dangereux cette possible complicité entre finalement un schéma un peu néolibéral et une certaine manière de voir cette fluidité de genre. Voilà. Et moi, cet endroit-là, j'ai envie de revenir quand même à un combat purement politique sur l'égalité, l'égalité des droits, la reconnaissance de l'égalité des droits et rappeler qu'il y a de la souffrance derrière et que l'individu ne peut pas tout, justement. Ce n'est pas en traversant la rue qu'on va trouver du travail. La volonté n'est pas le maître mot du rapport aux autres et du rapport à soi-même.
Est-ce que je peux vous répondre sur plusieurs points? Bien évidemment, je ne peux être d'accord avec vous que sur l'égalité des droits. Il me semble que c'est évident. Mais moi, ce qui m'importe, c'est l'égalité en fait, dans la réalité. Et donc, dans cette réalité-là, vous êtes toujours en train de, dans les rapports sociaux avec les autres, de vous ajuster, d'être contrarié, tout ce que vous voulez. D'autre part, vous dites, changer de genre, ça serait, ce matin...
Je pense que c'est beaucoup plus dur.
Je change, je veux être fille, et puis demain, je vais mettre un pull rose, et puis c'est à peu près la même chose. Lorsque l'on voit les parcours de passing, de trans...
Non, c'est ce que je dis, justement.
Où, effectivement, l'État, le corps médical, les psychiatres ont leur mot à dire sur la manière dont on va faire son passing, alors là, vraiment, je trouve que, justement, la société a des normes par rapport à ceux ou à celles qui veulent changer de genre. Et donc, c'est un parcours du combattant. Parce que ce n'est pas, je décide, vous dites néolibéral, je décide ce matin que je vais être homme. Non, c'est pas ça. Il y a tout un parcours, et on voit bien, y compris dans les films qui ont été faits là-dessus, comment ce parcours est une continuité difficile où on se heurte à soi-même, on se heurte à la famille. Combien de mômes, qu'elles soient filles ou garçons, ont été chassés de chez eux parce qu'ils voulaient changer de genre. Donc c'est vraiment un combat aussi, pas seulement pour des droits, mais une tolérance, une manière d'être avec tous ceux et toutes celles qui veulent changer de genre. Et deuxième...
Là-dessus, je suis d'accord avec vous.
Oui, le dire comme je le dis, je trouve que ça met... Et puis deuxièmement... Non, mais c'est bête ce que je dis là.
J'entends là où on est.
Mais surtout pour répondre, c'est pas nouveau. La transsexualité et tout cela, simplement on n'en parlait pas. Et quand on dit maintenant dans les journaux on ne voit plus que ça, on entend ça. Non, mais c'est pas qu'on ne voit plus que ça, c'est que enfin on en parle, enfin ça fait problème, ça pose question et on en débat. Ou au contraire avec des normes sociales qui mettent un couvercle, on ne veut pas savoir. Chez nous, pas de ça. Ce que j'ai entendu chez des parents. Ah, chez nous, dans notre famille, on n'a jamais connu ça. Hein? Comme si c'était...
L'homosexualité ou la transsexualité ?
Les deux. Quand on regarde l'histoire de la famille et quand on lit les historiens et les historiennes, on voit bien que ça existait dans bien tous sûr. Les siècles et que ça n'était pas su. C'est ce qu'on appelait les secrets de famille. Hein? Donc, voilà. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Mais...
Oui, mais justement, ce qui est intéressant, parce que c'est en fait... C'est compliqué hein, parce qu'il y a des débats, enfin il y a des combats aujourd'hui qui s'opposent en quelque sorte, parce qu'il y a eu d'abord le grand combat ACT UP, la reconnaissance de l'homosexualité fondamentale, et aujourd'hui on a le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est plus une revendication ni d'homosexualité, c'est plutôt justement sur la fluidité, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la reconnaissance d'une différence, et de l'autre côté, aujourd'hui, on est plus sur l'homosexuel et cisgenre. En fait, il y a de la fluidité des genres, etc. C'est-à-dire, d'un côté, et on retrouve ça dans les combats féministes, d'un côté, il y a toujours la tendance, la tentation essentialiste de dire la femme a une nature particulière, et au nom de cette nature, on va mener un combat, ou c'est pas parce qu'on est femme qu'il faut nous traiter différemment. Il y a l'égalité doit précisément faire oublier la différence. Et on est toujours autour de, en fait, est-ce que la différence, il faut la revendiquer ou est-ce qu'il faut l'oublier ? Est-ce que le travail politique, il est là pour faire oublier ou en tout cas rendre indifférent à la différence la rendre acceptable partout ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut la revendiquer ? Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toute la différence des combats et le fait que ces combats s'opposent eux-mêmes, c'est toujours autour de ce même paradigme de est-ce qu'il faut revendiquer la différence ou est-ce qu'il faut la rendre indifférente ou est-ce qu'il faut l'effacer. Et c'est pas clair en fonction... Et pourtant, on sait bien que de côté, on cherche à être reconnu. Il y a toujours un combat pour la reconnaissance. Mais cette reconnaissance, est-ce qu'elle passe par justement... l'effacement des différences ou est-ce qu'elle passe par la revendication de la différence ? Et on oscille toujours de l'un à l'autre, en permanence en ce moment.
Oui, mais tout le mouvement féministe a été conduit par cette différence, enfin, soit les différentialistes, soit au contraire les égalitaristes. Mais une différence, le problème, c'est que la différence, et si vous êtes philosophe, vous savez mieux que moi, je ne saurais pas le dire dans vos termes, mais ce qu'il faut voir, c'est que la différence, elle était toujours inégalitaire. Ce n'était pas de la différence, c'était de l'inégalité. Et donc, je ne vois pas pourquoi, au nom d'une différence qui serait essentialiste, on retirerait des droits ou on poserait que les femmes sont ci ou ça. Et c'est une norme qu'on le met... Voilà. Et donc, ce qui, moi, m'apparaît important, c'est que des positions, des places, des positions par rapport à son genre, à sa sexualité, à ses prises de position multiples et variées, elles sont diverses. Et on ne voit pas au nom de quoi. Il faudrait dire que cette façon de faire, plutôt que celle-là, est légitime, pour reprendre votre terme tout à l'heure, qui était très bien choisi, me semble-t-il. Parce que dans votre article du Monde, quand vous dites c'est un mortel ennui de voir cette jeune génération être victimaire, être morale. Vous n'avez pas dit puritaine, mais presque, comme si, au contraire, cette jeune génération, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Enfin, moi, ce qu'elle me dit, mes étudiantes me le disent. Elles disent rien, mais je les vois. Hein, je les vois. Qu'est-ce qu'elles nous disent ? Que nous, dans ma génération, nous avons, comme vous l'avez dit, acquis des droits fondamentaux. Hein, des droits fondamentaux. Et on a travaillé sur le droit. Et maintenant, je pense que la jeune génération, elle travaille sur les faits, sur les normes. Ras-le-bol de nous mettre des étiquettes. Ras-le-bol de nous... Donc, on leur a passé...
Absolument.
On leur a passé le micro, si j'ose dire. On leur a passé le témoin. Je pense que, si vous voulez, il y a eu une transmission d'une lutte à un moment donné sur les droits. Et il faut continuer. Hein, quand on voit aux États-Unis, il faut continuer sur le droit. Hein. Mais, en revanche... Maintenant, il s'agit de reprendre la relève et de travailler sur les faits. Les faits.
Je suis bien d'accord. Le problème, c'est comment on travaille sur les normes.
Comment on travaille maintenant avec elles ?
Bah oui, mais comment on travaille sur des normes ? Regardez, par exemple, la question de la justice. Est-ce qu'il faut la contourner ou est-ce qu'il faut la doubler ou est-ce que...
Il faut la faire évoluer.
Est-ce qu'on la fait évoluer
on l'a
à travers
fait.
Une justice populaire ? Est-ce que, enfin, vous voyez, c'est compliqué. Je dis pas qu'il faut pas parfois le faire parce qu'elle est trop lente, parce qu'elle est défaillante, etc. Mais d'instituer une transformation uniquement par les normes, c'est ultra dangereux.
Oui, mais
parce que c'est une norme contre une autre. La question justement du critère, elle devient compliquée si on se passe de la relation au droit et de la référence au droit. Elle devient compliquée puisque finalement. Comment arriver à critiquer les normes, à les critiquer au sens neutre du terme, hein, à avoir un esprit critique sur les normes, si on ne se réfère pas à quelque chose qui est extérieur aux normes, et c'est pour ça que moi je tiens quand même à un état de droit. Pourquoi est-ce que une nouvelle normativité de la justice se substituerait pas à une justice instituée, droit, etc. La présomption d'innocence, ce genre de choses. Enfin, si on veut être concret, ce genre de choses. Bon, on voit bien que la normativité qui est en marche comme un combat politique est également nécessaire, je vous l'accorde. Mais comment on fait pour qu'elle ne vienne pas se substituer radicalement à une institution qui a quand même des garde-fous malgré tout. Pour moi, c'est toute la difficulté. Et alors, je pense que c'est toujours dans une forme de solution hybride qu'on arrive à s'en sortir et qu'un peu de radicalité vient faire bouger les lignes, vient faire bouger le droit. Et donc, c'est un peu dans cette dialectique qu'on arrive à avancer. Mais il n'empêche que je n'accorderai pas tout à cette radicalité comme je n'accorderai pas tout à des institutions qui devraient rester telles quelles. Non, évidemment, il faut qu'elles évoluent. Mais en revanche, voilà, il faut trouver un juste milieu. Il faut trouver une sorte de lien permanent entre les deux. Parce que tout accordé aux normes, tout accordé à des mouvements sociaux, indépendamment de ce qui faisait un état de droit et ce qui protégeait les individus, je pense que ça peut être extrêmement dangereux.
Alors, je vous suis, mais juste un petit peu. Au sens où... Quand on regarde les combats féministes dans l'histoire, et ceux que j'ai connus moi et ceux que d'autres ont connus, je n'ai pas vu qu'on ait fait bouger l'état de droit, pour reprendre vos termes, sans lutte sociale et sans lutte féministe. Le droit à l'avortement, on l'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu les luttes féministes, s'il n'y avait pas eu Gisèle Halimi, s'il n'y avait pas eu notre combat à l'époque. Et donc,
c'est complètement vrai. En même temps, il ne faut pas oublier que Simone Veil, lorsqu'elle fait passer le droit à l'avortement, c'est pour des questions de santé publique et pas pour des questions féministes.
Parce
que je trouve qu'aujourd'hui, on a l'impression...
Non, je suis d'accord. C'est ce qu'elle a dit. Mais c'était une stratégie. Hein. Il faut être clair là-dessus. Lorsqu'elle a présenté à l'Assemblée nationale l'avortement comme une politique de santé, c'est parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais elle était persuadée absolument de la justesse de ce combat. Alors, j'ai perdu mon truc. Oui, je voulais dire que, à ma connaissance, je n'ai pas vu que des droits sociaux soient gagnés sans lutte sociale préalable. Et donc, pour moi... Ce que faire changer des normes, c'est justement, comment dire, être radical, de temps en temps, pour essayer de déconstruire ce qui fait d'une évidence éblouissante, telle qu'on ne voit même plus que ce sont des normes qui oppressent, qui dominent, et qui... voilà. Et donc, je pense que le mouvement actuel de MeToo et de la frontière très poreuse, et vous avez raison, entre, comment dire, à un moment donné, la présomption d'innocence et en même temps la présomption de culpabilité, l'un ne va pas sans l'autre, hein, fait que effectivement on peut, mais c'est trop facile, à mon sens, de vous référer directement à l'état de droit. Là, il y a la justice, il y a une présomption d'innocence, on ne bouge pas. Or, l'innocence, ça se discute, comme dit l'autre.
Ça se discute. Au nom de quoi ? Mais en fait, ce qui est arrivé aussi, enfin, le troisième acteur dont on n'a pas parlé à travers, enfin, qui participe et qui rend possible, qui est un peu la condition de possibilité de cette nouvelle forme de combat, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Et pour moi, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème, c'est que est-ce qu'on peut faire de la politique par Internet, sachant que. C'est fondamental.
C'est au cœur du genre, ça.
Hein. Oui, non, je dis pas le contraire, mais je vais vous poser une question un peu plus directe. Et après, on vous donnera la parole pour un échange.
Le micro, je pense.
Toutes ces théories sur la déconstruction des hommes, la nécessité, etc., ce combat quand même contre une part de la virilité, de la domination, passe par la domination, par toute chose, mais pas seulement, par des comportements aussi à moi, par des comment vous réagissez à quand vous entendez des femmes comme Sandrine Rousseau ou d'autres parler de nécessité de déconstruire déconstruire certaines personnalités masculines, de les amener à d'autres modes fondamentalement indépendamment des agressions, des viols et de toutes les dans la vie courante, etc. Et qu'il faut de la changement en profondeur des hommes, un passage obligé. Comment vous réagissez, mais vous, personnellement ?
Je réagis en disant que, chapeau, c'est ce qu'il faut faire. Je ne vois pas, si on pense que le masculin, le virilisme, ce sont des constructions historiques, normatives, je ne vois pas pourquoi les hommes en général ne feraient pas un travail de sédition avec la socialisation masculiniste qu'ils ont eue. Comme nous l'avons fait, nous, un travail sur qu'est-ce que c'est que ces normes qu'on nous met sur la tête d'essentialisme féminin. Je pense qu'il y a un travail proprement masculin à faire sur quelles sont les constructions virilistes et masculinistes que la société veut leur faire endosser, et qu'ils sont, pas majoritairement, mais certains groupes ou hommes refusent.
Oui, mais où est la frontière? Parce que justement,
il n'y a pas de frontière.
Dans le texte qu'avait fait Mazarine Pinjot dans Le Monde, elle défendait le droit des hommes à faire des compliments aux femmes. La courtoisie, des tas de codes sociaux qui appartiennent peut-être au passé. Non, mais c'est des questions de ma part. Qu'est-ce que jusqu'où va cette déconstruction?
Moi, je parle la déconstruction, elle va jusqu'à comment arriver, alors que j'ai été que je suis un homme, que j'ai été socialisé comme plus important ou supérieur aux femmes, et donc sûrement dans des positions dominantes. Comment je fais, et certains hommes le font, pour justement, autant que faire se peut, revenir à une autre conscience d'égalité avec les femmes,
oui.
et de ne pas avoir les comportements qui, justement, soient des dominants. y compris dans le salaire, y compris dans le travail, y compris dans le couple, y compris dans la sexualité. C'est-à-dire repenser, comme nous l'avons fait. Mais on ne va pas le faire pour les hommes, c'est à eux de le faire. C'est un travail très important que certains hommes, dans la nouvelle génération, commencent. Et vous le voyez.
Bien sûr. Hein, vous...
Oui. Mais même dans les générations d'avant, soyons pas... trop... enfin, je sais pas, moi, je suis entourée d'hommes qui ont déjà fait ce travail, qui sont pas des machistes invétérés, bon. Mais... Non, juste, sur, je revendique pas le droit de pouvoir faire des compliments, je dis juste, ça mérite pas d'être un objet politique, enfin, voilà, moi, ce que je reproche à Sandrine Rousseau, c'est qu'elle est exactement dans ce qu'elle dénonce, quoi, elle est dans des stratégies de pouvoir, et ce qu'elle fait, ça relève uniquement, bah, justement, d'une forme de virilisme, en quelque sorte. Et donc, je trouve qu'elle contredit, c'est une forme de contradiction performative, elle contredit ce qu'elle revendique. On peut pas imposer... D'abord, la déconstruction, ça s'impose pas de cette manière-là. Ça se travaille, c'est quelque chose qui engage nécessairement un travail beaucoup plus global que juste se déconstruire soi-même comme si c'était un travail d'autocritique. Le virilisme, c'est une norme sociale, c'est pas une norme individuelle. Donc, si on prend pas en compte un travail de déconstruction sociale, on peut pas aller accuser les uns et les autres individuellement d'être des hommes. Enfin, je veux dire, c'est absurde, quoi. Donc voilà, elle est dans des stratégies de pouvoir. Et déjà, moi, d'emblée, ça annule ce qu'elle dit. Je peux plus entendre ce qu'elle dit. C'est trop palpable. Bon, ça ne veut pas dire que par derrière, la question de la déconstruction n'est pas une vraie question. Dommage que ce soit elle qui s'en soit emparée, quoi.